La solitude absolue, le spectacle de la nature, me plongèrent bientôt dans un état presque impossible à décrire. Sans parents, sans amis pour ainsi dire sur la terre, n'ayant point encore aimé, j'étais accablé d'une surabondance de vie. Quelquefois je rougissais subitement, et je sentais couler dans mon cœur comme des ruisseaux d'une lave ardente. Quelquefois je poussais des cris involontaires, et la nuit était également troublée de mes songes et de mes veilles. Il me manquait quelque chose pour remplir l'abîme de mon existence. Je descendais dans la vallée, je m'élevais sur la montagne, appelant de toute la force de mes désirs l'idéal d'une flamme future. Je l'embrassais dans les vents. Je croyais l'entendre dans les gémissements du fleuve. Tout était ce fantôme imaginaire, et les astres dans les cieux, et le principe même de vie dans l'univers. Toutefois, cet état de calme et de trouble, d'indigence et de richesse, n'était pas sans quelque charme. Un jour, je m'étais amusé à effeuiller une branche de saule sur un ruisseau, et à attacher une idée à chaque feuille que le courant entraînait. Un roi qui craint de perdre sa couronne par une révolution subite ne ressent pas des angoisses plus vives que les miennes à chaque accident qui menaçait les débris de mon rameau. Ô faiblesse des mortels, ô enfance du cœur humain qui ne vieillit jamais. Voilà donc à quel degré de puérilité notre superbe raison peut descendre. Et encore est-il vrai que bien des hommes attachent leur destinée à des choses d'aussi peu de valeur que mes feuilles de saule. Mais comment exprimer cette foule de sensations fugitives que j'éprouvais dans mes promenades? Les sons que rendent les passions dans le vide d'un cœur solitaire ressemblent aux murmures que les vents et les eaux font entendre dans le silence d'un désert. On en jouit, mais on ne peut les peindre. L'automne me surprit au milieu de ces incertitudes. J'entrais avec ravissement dans les mois des tempêtes. Tantôt j'aurais voulu être un de ces guerriers errant au milieu des vents, des nuages et des fantômes. Tantôt j'enviais jusqu'au sort du pâtre que je voyais réchauffer ses mains à l'humble feu de broussailles qu'il avait allumé au coin d'un bois. J'écoutais ses chants mélancoliques qui me rappelaient que dans tout pays, le chant naturel de l'homme est triste, lors même qu'il exprime le bonheur. Notre cœur est un instrument incomplet, une lyre où il manque des cordes, et où nous sommes forcés de rendre les accents de la joie sur le ton consacré au soupir. Un jour, je m'égarai sur de grandes bruyères terminées par des forêts. Il fallait peu de choses à ma rêverie, une feuille séchée que le vent chassait devant moi, une cabane dont la fumée s'élevait dans la cime dépouillée des arbres, la mousse qui tremblait au souffle du nord sur le tronc d'un chêne, une roche écartée, un étang désert où le jonc flétri murmurait. Le clocher solitaire s'élevant au loin dans la vallée a souvent attiré mes regards. Souvent j'ai suivi des yeux les oiseaux de passage qui volaient au-dessus de ma tête. Je me figurais les bords ignorés, les climats lointains où ils se rendent. J'aurais voulu être sur leurs ailes. Un secret instinct me tourmentait. Je sentais que je n'étais pas moi-même qu'un voyageur, mais une voix du ciel semblait me dire « Homme, la saison de ta migration n'est pas encore venue. Attends que le vent de la mort se lève. Alors tu déploieras ton vol vers ces régions inconnues que ton cœur demande. Levez-vous vite, orage désiré qui devait emporter René dans les espaces d'une autre vie. Ainsi disant, je marchais à grands pas, le visage enflammé, le vent sifflant dans ma chevelure, ne sentant ni pluie, ni frimas, enchanté, tourmenté et comme possédé par le démon de mon cœur. La nuit, lorsque l'aquilon ébranlait ma chaumière, que les pluies tombaient en torrents sur mon toit, qu'à travers ma fenêtre, je voyais la lune sillonner les nuages amoncelés comme un pâle vaisseau qui laboure les vagues. Il me semblait que la vie redoublait au fond de mon cœur, que j'aurais la puissance de créer des mondes. Ah, si j'avais pu faire partager à un autre les transports que j'éprouvais. Oh Dieu, si tu m'avais donné une femme selon mes désirs. Si, comme à notre premier père, tu m'eusses amené par la main une Ève tirée de moi-même. Beauté céleste, je me serais prosterné devant toi. Puis, te prenant dans mes bras, j'aurais prié l'Éternel de te donner le reste de ma vie. Hélas, j'étais seul, seul sur la terre. Une langueur secrète s'emparait de mon corps. Ce dégoût de la vie que j'avais ressenti dès mon enfance revenait avec une force nouvelle. Bientôt, mon cœur ne fournit plus d'aliments à ma pensée, et je ne m'apercevais de mon existence que par un profond sentiment d'ennui. Je luttais quelque temps contre mon mal, mais avec indifférence et sans avoir la ferme résolution de le vaincre. Enfin, ne pouvant trouver de remède à cette étrange blessure de mon cœur, qui n'était nulle part et qui était partout, je résolus de quitter la vie. Prêtre du Très-Haut qui m'entendait, pardonnez à un malheureux que le ciel avait presque privé de la raison. J'étais plein de religion et je raisonnais en impie. Mon cœur aimait Dieu et mon esprit le méconnaissait. Ma conduite, mes discours, mes sentiments, mes pensées n'étaient que contradictions, ténèbres, mensonges. Mais l'homme sait-il bien toujours ce qu'il veut? Est-il toujours sûr de ce qu'il pense? Tout m'échappait à la fois. L'amitié, le monde, la retraite. J'avais essayé de tout, et tout m'avait été fatal. Repoussé par la société, abandonné d'Amélie quand la solitude vint à me manquer, que me restait-il? C'était la dernière planche sur laquelle j'avais espéré me sauver, et je la sentais encore s'enfoncer dans l'abîme. Décidé que j'étais à me débarrasser du poids de la vie, je résolus de mettre toute ma raison dans cet acte insensé. Rien ne me pressait. Je ne fixais point le moment du départ, afin de savourer à long trait les derniers moments de l'existence et de recueillir toutes mes forces, à l'exemple d'un ancien, pour sentir mon âme s'échapper. Cependant, je crus nécessaire de prendre des arrangements concernant ma fortune, et je fus obligé d'écrire à Amélie. Il m'échappa quelques plaintes sur son oubli, et je laissai sans doute percer l'attendrissement qui surmontait peu à peu mon cœur. Je m'imaginais pourtant avoir bien dissimulé mon secret, mais ma sœur, accoutumée à lire dans les replis de mon âme, le devina sans peine. Elle fut alarmée du ton de contrainte qui régnait dans ma lettre, et de mes questions sur des affaires dont je ne m'étais jamais occupé. Au lieu de me répondre, elle me vint tout à coup surprendre. Pour bien sentir qu'elle dut être dans la suite, l'amertume de ma douleur et quels furent mes premiers transports en renvoyant Amélie, il faut vous figurer que c'était la seule personne au monde que j'eusse aimée, que tous mes sentiments se venaient confondre en elle avec la douceur des souvenirs de mon enfance. Je reçus donc Amélie avec une sorte d'extase de cœur. Il y avait si longtemps que je n'avais trouvé quelqu'un qui m'entendît et devant qui je pus ouvrir mon âme. Amélie, se jetant dans mes bras, me dit « Ingrat, tu veux mourir et ta sœur existe. Tu soupçonnes son cœur. Ne t'explique point, ne t'excuse point, je sais tout. J'ai tout compris, comme si j'avais été avec toi. Est-ce moi que l'on trompe, moi qui ai vu naître tes premiers sentiments? Voilà ton malheureux caractère, tes dégoûts, tes injustices. Jure, tandis que je te presse sur mon cœur, jure que c'est la dernière fois que tu te livreras à tes folies. Fais le serment de ne jamais attenter à tes jours. » En prononçant ces mots, Amélie me regardait avec compassion et tendresse, et couvrait mon front de ses baisers. C'était presque une mère. C'était quelque chose de plus tendre. Hélas, mon cœur se rouvrit à toutes les joies. Comme un enfant, je ne demandais qu'à être consolé. je cédai à l'empire d'Amélie. Elle exigea un serment solennel. Je le fis sans hésiter, ne soupçonnant même pas que désormais je pusse être malheureux. Nous fûmes plus d'un mois à nous accoutumer à l'enchantement d'être ensemble. Quand le matin, au lieu de me trouver seul, j'entendais la voix de ma sœur, j'éprouvais un tressaillement de joie et de bonheur. Amélie avait reçu de la nature quelque chose de divin. Son âme avait les mêmes grâces innocentes que son corps. La douceur de ses sentiments était infinie. Il n'y avait rien que de suave et d'un peu rêveur dans son esprit. On eût dit que son cœur, sa pensée et sa voix soupiraient comme deux concerts. Elle tenait de la femme la timidité et l'amour, et de l'ange la pureté et la mélodie. Le moment était venu où j'allais expier toutes mes inconséquences. Dans mon délire, j'avais été jusqu'à désirer d'éprouver un malheur, pour avoir du moins un objet réel de souffrance. Épouvantable souhait que Dieu, dans sa colère, a trop exaucé. Que vais-je vous révéler, ô mes amis? Voyez les pleurs qui coulent de mes yeux. Puis-je même? Il y a quelques jours, rien n'aurait pu m'arracher ce secret. À présent, tout est fini. Toutefois, ô vieillard, que cette histoire soit à jamais ensevelie dans le silence. Souvenez-vous qu'elle n'a été racontée que sous l'arbre du désert. L'hiver finissait lorsque je m'aperçus qu'Amélie perdait le repos et la santé, qu'elle commençait à me rendre. Elle maigrissait, ses yeux se creusaient, sa démarche était languissante et sa voix troublée. Un jour, je la surpris tout en larmes au pied d'un crucifix. Le monde, la solitude, mon absence, ma présence, la nuit, le jour, tout l'alarmait. D'involontaires soupirs venaient expirer sur ses lèvres. Tantôt elle soutenait sans se fatiguer une longue course. Tantôt elle se traînait à peine. Elle prenait et laissait son ouvrage, ouvrait un livre sans pouvoir lire, commençait une phrase qu'elle n'achevait pas, fondait tout à coup en pleurs et se retirait pour prier. En vain je cherchais à découvrir son secret. Quand je l'interrogeais en la pressant dans mes bras, elle me répondait avec un sourire qu'elle était comme moi, qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait. 3 mois se passèrent de la sorte, et son état devenait pire chaque jour. Une correspondance mystérieuse me semblait être la cause de ses larmes, car elle paraissait ou plus tranquille ou plus émue, selon les lettres qu'elle recevait. Enfin, un matin, l'heure à laquelle nous déjeunions ensemble étant passée, je monte à son appartement. Je frappe. On ne me répond point. J'entr'ouvre la porte. Il n'y avait personne dans la chambre. J'aperçois sur la cheminée un paquet à mon adresse. Je le saisis en tremblant. Je l'ouvre. Et je lis cette lettre, que je conserve pour m'ôter à l'avenir tout mouvement de joie.